Vous écoutez RTL.
Philippe Robuchon.
RTL dimanche soir.
Bonsoir Luc Barbet.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole de Printemps Solidaire. Vous vous êtes échappé quelques instants du grand concert meeting qui se tient depuis la mi-journée place de la Concorde. C'est pas fini, ça dure jusqu'à 22h. Cette journée, c'était pour rappeler aux dirigeants français une promesse qui a été faite il y a un demi-siècle et qui n'a jamais été tenue.
Une parmi d'autres, certainement, mais en tout cas celle-ci est plus vieille peut-être que beaucoup d'autres, à savoir que la France allait consacrer, comme beaucoup d'autres pays, 0,7% de sa richesse nationale aux questions de solidarité internationale et d'aide au développement.
C'était en 1970,
sous Pompidou, et depuis, Valéry Giscard d'Estaing, Chirac, Sarkozy, Hollande, ça fait beaucoup. Donc oui, on est là, pour rappeler cette promesse et pour essayer de sensibiliser le président de la République, et pas que le président de la République, parce que c'est aussi une campagne d'éducation, puisque on part de loin sur ces sujets, il faut expliquer aux gens de quoi on parle. Mais en tout cas, essayer de sensibiliser le président de la République au fait que nous sommes beaucoup plus nombreux que soit les médias, soit la classe politique peut l'imaginer, à défendre une France qui se montre plus solidaire à l'international, parce que, pour être très concret, elle est en retard par rapport aux autres.
Oui, on est au 14e rang. On dit qu'on est la 5e ou 6e puissance mondiale. Or, on est au 14e rang à ce niveau-là.
Tout à fait. On a même perdu du terrain depuis 8 ans. C'est-à-dire qu'il y a des grands discours des politiques, surtout sur le sujet international. Le président va partir à l'ONU. Je suis sûr qu'il a déjà rédigé son grand discours pour dire que la France doit tenir son rang sur des questions de fraternité, de droits de l'homme, d'environnement, pour surfer sur le succès, entre guillemets, de la COP21. Et pourtant, on est loin d'être exemplaire, puisque on parle bien évidemment aujourd'hui beaucoup de la zone sahélienne, parce que tout le monde a bien conscience que si jamais les choses s'améliorent pas là-bas, les incidences vont être multiples pour les intérêts de la France et pas que. Maintenant, ce qui serait bien, c'est qu'en dehors de ces grands discours sur la hauteur de la France, eh bien, ce serait bien qu'on se regarde dans la glace vis-à-vis de ce monde-là et qu'on tienne nos engagements.
Alors, 0,7% consacré à l'aide au développement, c'était donc en 1970, cette promesse. Aujourd'hui, la France consacre 0,38%. C'est ça.
0,38% et le mieux qu'elle ait fait durant ces 48 ans, c'est de monter à 0,55.
0,38% en euros, pour parler concrètement, ça représente combien ?
Pour être clair, 0,1, c'est environ 2 milliards d'euros. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on consacre, quand on en sera au 0,7, 14 milliards par an, ce qui peut paraître beaucoup, mais au regard de la richesse de la France, ça reste 0,7%. Et surtout, il faut bien avoir conscience que, parce que les gens, de manière générale, peuvent avoir une vision qui est de charité, vous voyez, de solidarité, mais à la fois, on fait ça pour les autres et pas pour nous. Je pense que c'est une grave erreur. Il faut d'abord voir ça comme un investissement pour l'avenir et un investissement pour les gens qui pourront en profiter, et puis surtout aussi pour nous, puisque de plus en plus, on entend, mais vous savez, ce monde est interconnecté, tout est lié. Maintenant, au quotidien, on ne le mesure pas forcément. Cette mondialisation dont on entend parler toute la journée, elle est, pour l'instant, on la subit plus qu'on en profite. Et donc, l'idée de ce 0,7, c'est d'aller vers une mondialisation qui se voudrait un peu plus heureuse.
Positive.
Voilà, positive, dans le sens où les richesses, c'est important, mais c'est bien aussi qu'elles soient redistribuées. Donc, en France, elles sont plutôt pas mal redistribuées. On regarde ce qui se passe dans le monde entier sur des questions sociales, sur des questions sociétales. Donc, en tant que citoyen, on le souligne, et surtout, c'est bien d'en avoir conscience. On a de la chance d'être français.
Oui, tout le monde ne le mesure pas.
Maintenant, sur la question internationale, on a une vraie responsabilité, parce qu'aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que ce qui se passe sur le plan du dérèglement climatique, ce qui se passe sur les questions d'éducation, ce qui se passe sur les questions de flux migratoires, ce qui se passe en termes de sécurité, dont on mesure aujourd'hui que la radicalisation gagne du terrain et que cette radicalisation, notamment islamistes, moins l'éducation, moins la culture sont présents et plus elle va gagner du terrain. Et donc réinvestir des pays oubliés sur ces champs-là, c'est une vraie priorité pour l'avenir. Maintenant, on ne fait pas que ça pour des questions de sécurité.
Alors, le calendrier, le timing de votre campagne n'est évidemment pas choisi au hasard. Vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron s'envole pour New York demain soir pour l'Assemblée Générale de l'ONU. Bientôt, la France va présenter son budget pour l'année prochaine. Vous avez fait une campagne de pub assez flashy, on va le dire, cette semaine. On a vu des affiches, des pages de pub fleurir un peu partout avec le visage d'Emmanuel Macron, un post-it sur le front marqué 0,7. Évidemment, pour qu'il n'oublie pas ses promesses, et pourquoi pas le rappeler demain à l'ONU.
Ben oui, parce que je fais partie des gens, et je pense qu'on est très très nombreux, à considérer que le courage en politique, c'est de tenir les engagements, d'abord. Et donc cette promesse, on l'a faite, et donc je considère que nous devons nous en sentir responsables, et qu'à un moment, se serrer la ceinture pour y arriver, ça me paraît être une vraie priorité. Le président Macron, visiblement sur ce sujet, a l'air velléitaire, et puis c'est plutôt pour dire que On aimerait bien lui offrir une assise populaire pour qu'il en profite pour aller plus loin, parce qu'on a bien conscience que même pour le président de la République, aller jusqu'au 07, ça demande du courage politique. Donc on aimerait que le président Macron, dans son élan, eh bien, il aille jusqu'à ça et qu'il s'engage. Alors que si ce 07, on n'est pas capable de l'atteindre d'ici 2022, eh bien au moins qu'il s'engage pour 2025 avec une trajectoire concrète qui commencerait dès le projet de loi de finances.
Vous, ce 2018. Que vous voulez, c'est un calendrier, en fait.
On veut un calendrier avec des sommes en face de ce calendrier. Et donc si, par exemple, le projet de loi de finances qui va être présenté au Conseil des ministres le 27 septembre tient compte d'une augmentation de l'aide publique au développement dès 2018 et avec une projection qui va jusqu'à 2022, peut-être 2025, on considérera que le président Macron aura été à la hauteur de nos attentes.
Merci Luc Barbet, on vous laisse retourner vite fait place de la Concorde, rejoindre les artistes du concert de Printemps Solidaire. Je précise qu'on peut signer votre appel sur le site printempssolidaire.fr.
18h-19h30, RTL dimanche soir.
Philippe Robuchon.
Dans un instant avec Olivier Mazerolle, le MacPol, comme tous les dimanches soirs. Mais d'abord les infos de ce dimanche soir avec Quentin Vinet. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Un SDF d'une quarantaine d'années interpellé cet après-midi près de Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est soupçonné d'avoir tué une femme enceinte retrouvée asphyxiée mercredi à Ustaritz. L'ADN de cet homme a été retrouvé sur la scène du crime selon les informations de RTL. Le niveau d'alerte terroriste redescend d'un cran au Royaume-Uni. Les autorités britanniques considèrent que la menace n'est plus imminente. Un deuxième suspect a été arrêté la nuit dernière, deux jours après l'attentat qui a fait 30 blessés dans le métro de Londres. Les Antilles, à nouveau menacées par une tempête tropicale, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont placées en vigilance jaune pour les cyclones, 10 jours après Irma. Cette tempête, Maria, se renforce à 800 km de la Guadeloupe où les écoles seront fermées demain par précaution. Deux matchs de football en ce moment, c'est la 6e journée du championnat de Ligue 1. On va faire le point sur les scores. Rennes contre Nice, Philippe Audouin.
0-0 toujours à 22 minutes de la fin et des Rennais dominateurs en deuxième période, mais toujours très peu d'occasions dans ce match.
L'autre match en cours, Angers contre Metz, Thierry Lardeux.
Et c'est Metz qui mène toujours au stade Raymond Coppa 1-0. Le joli but de Nolan Roux des Messins qui aurait pu doubler la mise, mais Opa Nguette a trouvé le poteau droit d'Alexandre Letellier. Il reste 20 minutes à jouer, 1-0 pour Metz.
Marseille se relance, victoire 2-0 à Amiens cet après-midi, puis le choc Paris-Lyon, ce sera à 21h en direct sur RTL. Un match de rugby en cours, Montpellier contre Toulon, c'est la 4e journée de top 14 et c'est bientôt la fin, Dimitri Moulin.
Oui, avec Montpellier qui a repris le large 31-20 et qui domine cette fin de rencontre, il reste 9 minutes au chronomètre.
Enfin la France en finale de la Coupe Davis de tennis, ce sera fin novembre, on ne connaît pas encore l'adversaire, les Bleus ont éliminé la Serbie cet après-midi grâce à Tsonga, vainqueur qui a porté le 3e et dernier point.
RTL dimanche soir, le MacPol
avec Philippe Robuchon.
Le MacPol, le magazine politique de la rédaction avec Olivier Mazerolle. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
La gestion de l'ouragan Irma, la colère des policiers, la police de proximité, la loi terrorisme, il y avait beaucoup plus qu'une raison d'écouter Gérard Collomb au grand jury aujourd'hui. Ça tombe bien, il était sur RTL. Un Gérard Collomb parfois surprenant, presque électron libre au sein du gouvernement. On l'écoutera et on en débattra. Deux focus dans ce MacPol. La situation financière catastrophique dans laquelle se trouvent certains partis depuis les législatives. Et puis les sénatoriales, c'est dimanche prochain. On verra à travers l'exemple d'un département, la Loire-Atlantique, que bon nombre d'élus locaux sont bien décidés à faire payer à Emmanuel Macron ses annonces de l'été. Le MacPol, c'est parti jusqu'à 19h.
Le MacPol.
La semaine d'Olivier Mazerolle sur RTL.
Je ne crois pas qu'il suffise de continuer à entonner les sirènes dégagistes dont on a vu combien, dans la confusion politique, elles pouvaient servir des forces aussi contraires et opposées que Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
Je vous ai dit, c'est du Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Les communistes sont toujours mes amis. C'est pas parce qu'il y a une direction communiste en perdition, bon, qui s'accroche maintenant, qui ne s'exprime plus que contre moi. Je ne vais pas m'arrêter à ça.
Olivier, vous avez évidemment reconnu les deux hommes qu'on vient d'entendre, hein, Pierre Laurent à la fête de l'UMA, Jean-Luc Mélenchon qui lui a répondu depuis l'île de la Réunion. On savait que ces deux-là n'étaient pas les meilleurs amis du monde depuis plusieurs mois. Là, c'est carrément la guerre entre eux, non ?
Ça dépasse en tout cas l'antagonisme entre deux personnes. Vous vous rendez compte que Pierre Laurent, qui est plutôt paisible habituellement, pacifique, a osé dire à Jean-Luc Mélenchon « tu utilises les mêmes armes que Marine Le Pen ». Or, pour un leader de gauche, Marine Le Pen, c'est le diable. C'est le racisme, l'extrême droite, le fascisme. Et Pierre Laurent insiste, il lui dit finalement « tu utilises le populisme racoleur et irresponsable ». Et ça va laisser des traces, parce que en fait, Pierre Laurent dit tout haut ce que beaucoup de leaders de gauche pense tout bas, et il ne supporte plus l'impérialisme gesticulatoire du patron de la France insoumise. Et d'ailleurs, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point les amis de Jean-Luc Mélenchon, qui sont habitués à distribuer les bons points et les mauvais points, sont complètement pris au dépourvu, ils ont du mal à trouver des réponses. Là, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez entendu, il gargarisait hier matin en mettant en scène son absence à la fête du Lumaï, c'était Lamartine, il rigolait, hein, un seul être vous manque,
et tout est dépeuplé.
Bon, maintenant, il est sur la défensive. Il est obligé de dire qu'il aime les communistes, mais par leur direction. Et puis, cerise sur le gâteau, son sniper, le député du Nord, Adrien Quatennens, a cru bon d'expliquer que si Jean-Luc Mélenchon refusait de dire explicitement s'il avait voté Macron contre Marine Le Pen à la présidentielle, c'est parce que le vote est secret. C'est exactement la réponse qu'a faite Laurent Wauquiez quand il lui a posé la même question. Alors, vous vous rendez compte, accusé d'être utilisé les méthodes de Marine Le Pen, même positionnement que Laurent Wauquiez face à l'extrême droite, Jean-Luc Mélenchon a passé un mauvais week-end. Il est habitué à mener la danse. Cette fois-ci, il est sur la défensive et c'est Pierre Laurent qui a fait mouche.
Gérard Collomb était à la mi-journée l'invité du grand jury sur RTL. On va réentendre la réponse du ministre de l'Intérieur à la grogne policière. Mais auparavant, il faut préciser qu'il Gérard Collomb a eu des positions assez singulières sur plusieurs autres sujets. Sur les problèmes de circulation à Paris, il a demandé que le préfet soit davantage associé aux décisions d'Anne Hidalgo. Sur la PMA, surtout la procréation médicalement assistée, il a dit en gros c'est loin d'être la priorité. La priorité, c'est le chômage. On sait que Marlène Schiappa, pas la secrétaire d'État chargée de l'égalité hommes-femmes, voulait en faire un texte pour 2018. Hein. Alors on revient au dossier le plus chaud du moment pour Gérard Collomb, la grogne des policiers, leurs conditions de travail. Voici les réponses qu'il a données au grand jury. On débrief juste après.
Moi, je prends en compte leurs préoccupations parce que je sais quel est l'état, effectivement, de la police, de la gendarmerie aujourd'hui. Vous voyez, on subit encore les conséquences de la RGPP qui avait été mise en place entre 2007 et 2012.
Nos remplacements de départ à la retraite.
Alors, depuis les attentats, on est reparti de l'avant. Mais malgré les créations de postes nombreuses, on n'est pas encore revenu aux chiffres où on était. Et c'est vrai à la fois pour les effectifs et c'est vrai en même temps pour le matériel, les équipements. Et c'est là-dessus que nous travaillons.
Vous l'avez vu, ce livre noir, hein, on l'a tous regardé, ou en tous les cas, il est accessible. Toutes ces photos montrant la dégradation des conditions de travail des policiers. Comment répondez-vous à cette urgence qu'ils vivent au quotidien ?
Alors, si vous voulez, il y a dans ce qu'ils disent deux choses très différentes. La première, effectivement, est sur les moyens matériels. La deuxième est plus sur le sens à donner à leur action et la confiance avec la population. Sur les conditions matérielles, le président de la République l'a annoncé, le budget du ministère de l'Intérieur va augmenter de plus 6,8%. Ça veut dire que ça ne tient pas compte de la régulation budgétaire que l'on a connue. Donc c'est une hausse nette. Oui. Sur le budget de la police, par exemple, il va augmenter de plus 1,9%, sans compter les effectifs. Vous savez que le président de la République a annoncé qu'on allait embaucher 10 000 personnes pour les forces de sécurité. C'est par exemple sur l'année 2017, plus 1700 personnes. Sur l'année prochaine, 2000. Ensuite, 2000 et 2500 et 1500. Voilà la répartition qui est prévue sur le
donc
quinquennat.
Donc ça, c'est pour les effectifs. Mais ça, sur c'est le pour matériel, les combien allez-vous investir
pour ce qui concerne le matériel, nous allons avoir une augmentation de plus 5,4%. Parce que c'est là, effectivement, que dans les années qui viennent de s'écouler, dans les deux ans, on n'avait pas amélioré fortement les conditions matérielles. Donc c'est 196 millions que nous allons consacrer, dont 50 millions. J'ai demandé que ces crédits-là soient déconcentrés de manière qu'ils sachent, en discutant avec les troupes, là où il faut effectivement agir, là où il faut mettre le coup de peinture, là où les WC sont dans un état piètre. Oui. Donc voilà, les gens vont pouvoir aujourd'hui répondre à l'attente que manifestent ces policiers. Et moi, je vais regarder partout.
Vous irez par exemple à Coulommiers, le commissariat de Coulommiers visiblement décroche la palme des difficultés. Est-ce que vous irez voir ce commissariat en Seine-et-Marne ?
J'irai voir ce commissariat. Je sais qu'il est bourré de malfaçons. Nous avons déjà commencé à y remédier. Mais j'irai voir moi-même parce que je ne veux pas visiter comme ministre que ce qui va bien. Je veux aussi visiter ce qui va mal.
Le MacPol.
RTL dimanche soir.
Débriefing avec Benjamin Sportouche de RTL, Christophe Jacubizine, LCI TF1, Guillaume Roquette, Le Figaro. Messieurs, le sujet principal sur lequel évidemment on attendait le ministre de l'Intérieur, c'est la réponse au malaise policier. Alors il a donné beaucoup de chiffres, budget, matériel. A-t-il répondu selon vous à la grogne qui s'est exprimée notamment hier dans les rues?
Moi j'ai trouvé qu'il y avait c'était une faiblesse de son intervention. Effectivement, on était un peu noyé sous les chiffres et c'est assez compliqué. Mais surtout, il n'a pas parlé directement aux policiers. On sait qu'il y a des demandes de rendez-vous, d'associations et de femmes, de policiers. On les a vues beaucoup très actives sur les réseaux sociaux pendant l'émission. Et la réponse du ministre, c'est quoi? C'est engagez-vous dans les syndicats, prenez le pouvoir. J'ai trouvé ça un peu léger.
Oui, il est gêné parce que le ministère de l'Intérieur fait partie de ces ministères avec beaucoup d'effectifs, comme l'éducation nationale, où la vérité, c'est que les ressources humaines, c'est co-géré entre le ministre et les syndicats officiels. Et là, il y a une grogne qui vient en dehors de ces syndicats, et donc il est très embêté, parce qu'en fait, il n'a pas envie de perdre ses interlocuteurs habituels en faisant émerger d'autres.
Benjamin ?
Alors, il a donné une date, il a dit dans les 2 à 3 ans. Je pense qu'il s'est un petit peu aventuré, mais on verra sur le terrain. Parce que quand vous consultez le livre noir des horreurs publiées par...
Dans les 2 à 3 ans, on aura rattrapé, entre guillemets, le retard.
Matériel voilà, et en matériel. Équipement, oui. Ça paraît très ambitieux. Donc c'est important. Pour un ministre de l'Intérieur, avoir des manifestations dans la rue, aussi petites soient-elles, c'est toujours gênant. Et pour Gérard Collomb, qui est un petit peu parfois contesté, parce qu'on estime qu'il n'est pas suffisamment sur le terrain, qu'il n'est pas comme ses prédécesseurs. Quel prédécesseur ? Manuel Valls, Nicolas Sarkozy. C'était ça un peu, hein, les talons maintenant. C'est ceux-là, ces ministres-là qui
premier
ont le compas.
De France, quoi.
Premier
flic
de France. Et donc, pour lui, il doit démontrer davantage encore qu'il est à l'écoute. Et c'est vrai qu'il le fait de manière pondérée. Peut-être n'y a-t-il pas dans ses mots beaucoup d'excès. Et c'est aussi ça qui ne passe pas parfois dans l'opinion.
Et c'est marrant parce qu'on va le voir sans doute sur les autres thématiques, c'est qu'en même temps, il peut être extrêmement incisif, mordant, libre. Et je trouve que c'est sur son domaine principal, son portefeuille, qu'il a été le moins convaincant de l'émission.
D'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'il a dit « Oui, bien sûr, je suis à l'écoute, il y a un problème. Si je dois aller dans ce commissariat de Coulommiers, qui semble-t-il est le champion du monde de la vétusté, j'irai. » Mais en même temps, il augmente le budget du ministère de l'Intérieur au global de plus de 6% et celui de la police de moins de 2%.
1,9,
ça veut dire quoi?
Oui.
Ça veut dire que le budget de la police augmente 3 fois moins que celui des autres services du ministère. Et là, à mon avis, les syndicats vont assez vite lui demander des comptes.
Alors, Christophe, vous l'avez abordé indirectement. Ce qui était très intéressant, un peu entre les lignes de ce grand jury, c'est la position de Gérard Collomb. Il semble un peu comme un électron libre au sein de ce gouvernement.
C'est incroyable parce qu'on a tellement habitué à des ministres extrêmement politiquement corrects. Là, on a vu un Gérard Collomb s'exprimant sur la PMA. Alors, il commence sur une position de principe en disant qu'il n'est pas contre. En revanche, il est contre la GPA, la gestation pour autrui. Mais très vite, il dit que ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est le chômage. Alors qu'on sait qu'au sein du gouvernement, cette histoire de PMA est une manière de donner un vernis de gauche, un vernis sociétal à la politique engagée en ce moment. Et puis aussi, on a entendu un Gérard Collomb envoyer quelques petits scuds à Anne Hidalgo.
Ah oui, sur la circulation à Paris.
Puisque maintenant, elle est la seule à décider. On a enlevé les pouvoirs du préfet. On a cru comprendre en coulisses que Gérard Collomb lui enlèverait bien ces pouvoirs-là assez prochainement.
Oui, je reviens sur la PMA pour les couples de femmes. Il dit, à ma connaissance, ce n'est pas au programme du gouvernement. Il dit, je n'ai pas vu de loi qui arrivait là-dessus. Comme s'il essayait d'envoyer un message à Emmanuel Macron en disant, attention, ce n'est pas par là qu'il faut aller.
Et d'ailleurs, il faudra regarder le calendrier. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État aux droits des femmes, a dit 2018. Il faut voir si c'est confirmé. Est-ce que ça va être en phase avec ce que veut Emmanuel Macron? Est-ce que des poids lourds comme Gérard Collomb vont être entendus? Tout est possible. Ça peut être un point très délicat à passer. Ça peut devenir extrêmement clivant. Et donc, c'est quelque chose à surveiller de près.
Et puis, autre sujet sur lequel le ministre de l'Intérieur s'est exprimé, on va dire, à sa façon, très personnelle, c'est les conditions de détention de Salah Abdeslam. Il a dit une phrase quand même assez incroyable. On le veut vivant au procès.
Ouais, il a laissé entendre, effectivement, que son état mental s'était extrêmement dégradé, peut-être en liaison avec les conditions de détention extrêmement strictes, observées 24 heures sur 24, etc. Et la justification qu'il a donnée au fait qu'on assouplisse un peu ces conditions de détention, c'est on le veut vivant face aux victimes. Voilà, il est. C'est quand même. Je pense que peut-être qu'on s'est aperçu que ces mesures de sécurité nécessaires, elles avaient un impact psychologique sur le.
Ce qui est intéressant,
le,
c'est que toutes ces prises de position sur la PMA, sur le terrorisme, mais aussi sur les migrants, où il dit OK, on ouvre des centres d'accueil, mais la priorité, c'est quand même d'expulser tous les gens qui n'ont rien à faire ici. C'est en train de dessiner un personnage. On va dire que Gérard Collomb est en train de rejoindre le club des ministres de droite de chez Macron. Alors avec
soutenu par le Figaro.
Soutenu par le Figaro.
Enfin, il était pas vraiment très à gauche déjà, hein, Guillaume Roca. C'était pas le maire de Lyon, on l'a jamais mis dans les frondeurs ou dans la gauche de la gauche.
Vous avez raison, mais c'était quand même l'un des rares socialistes à avoir rejoint le gouvernement. Donc, pour les gens qui ne suivent pas l'actualité de près, il vient quand même du PS. Or là, il est en train d'être comme Jean-Michel Blanquer, ou comme qui veut en finir avec les folies du pédagogisme à l'école, comme Muriel
Guillaume
Pénicaud.
Guillaume est content, ça fait un socialiste de moins au gouvernement.
Comme Muriel Pénicaud, qui réforme la loi du travail vers un petit peu plus de libéralisation, eh bien, voilà, fait partie des ministres droito-compatibles. Ce qui est étonnant, c'est que ce
enfin,
sont pas
un gouvernement
les ministres...
de droite.
Non,
quoi,
mais parce que ce ne sont pas les ministres de droite, comme Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin,
c'est plus LR,
qui finalement envoient plus
en marche,
de messages vers dans cette direction.
C'était intéressant, en tout cas, de souligner cette place à part que Gérard Collomb a au sein du gouvernement et qui va peut-être se manifester d'autres façons dans les semaines et les mois qui viennent. Merci, Benjamin Sportouche, Guillaume Roquette du Figaro, Christophe Jacubini, LCIT.
Merci à vous.
Olivier Mazerolles, quelque chose à ajouter ?
Oui, sur la PMA, Gérard Collomb ne dit pas ce que dit Madame Schiappa, mais observez bien que l'Élysée est très silencieux sur ce sujet et qu'Emmanuel Macron ne semble pas non plus extrêmement pressé de mettre ça en œuvre, sachant pertinemment que ça va encore susciter énormément de controverses. Et n'oubliez pas qu'il y a bientôt des élections au Sénat, que La République En Marche ne peut plus espérer obtenir la majorité au Sénat, mais qu'en revanche, elle espère bien débaucher un certain nombre de députés d'autres groupes pour une éventuelle réforme constitutionnelle et que donc il ne faut pas les agacer avec des mesures style PMA.
Voilà. On va en reparler tout à l'heure, tiens, des sénatoriales, Olivier. Dans un instant, sur RTL, une conséquence de leur échec aux dernières législatives, la grande misère financière de certains partis politiques.
Le MacPol,
Philippe Robuchon.
C'est la conséquence sonnante et trébuchante des dernières élections législatives. Les finances de plusieurs partis politiques sont aujourd'hui dans le rouge. L'argent public qu'ils touchent étant proportionnel au nombre d'élus, La République En Marche n'a pas trop de soucis à se faire. En revanche, dans d'autres formations, les caisses sont vides. Bonsoir Dominique Tenza.
Bonsoir.
Pour certains, c'est donc une période de vache maigre qui s'annonce, en premier lieu pour le Parti Socialiste.
Oui, peut-être Philippe, verrez-vous bientôt un panneau à vendre sur les grilles du 10 rue de Solferino, le célèbre hôtel particulier qui sert de siège au PS, car s'il y a un parti qui paye cher sa déroute électorale, dans tous les sens du terme, c'est bien le Parti Socialiste. Alors, vous l'avez dit, les dotations de l'État sont calculées en fonction des scores aux législatives. Or, les socialistes ont été, vous le savez, laminés, passant de 295 députés à 29 survivants. Résultat, le PS, habitué à récupérer 25 millions d'euros par an, va devoir se contenter l'an prochain de 8 millions. Imaginez une entreprise qui voit son budget divisé par 3, on est clairement pas loin de la banqueroute. La vente du siège paraît donc inévitable. Les licenciements aussi, un CE extraordinaire pourrait d'ailleurs se tenir avant la fin du mois.
Oui, les socialistes avaient acheté le siège de la rue de Solferino, 50 millions de francs. Ils vont le vendre probablement autour de 50 millions d'euros. Alors finalement, à part La République En Marche, tout le monde va devoir se mettre au régime sec.
Oui, c'est à peu près ça. Il suffit de regarder l'hémicycle. Les macronistes République En Marche plus Modem trustent à eux seuls quasiment 2/3 des sièges. Autant dire que pour eux, cette élection, c'est un jackpot financier. Pour la France Insoumise aussi, ne l'oublions pas, tout jeune parti qui, désormais, a de quoi voir venir. Pour tous les autres, ce sera compliqué.
Pour les Républicains, par exemple ?
Oui, alors en plus, pour les Républicains, c'est un cas particulier puisque depuis l'affaire Big Malion, le parti est surendetté. Il doit encore rembourser 5 50 millions d'euros aux banques. Et cette ardoise avait été négociée avec les banquiers dans l'hypothèse d'une victoire. Et je vous rappelle que la droite était archi favorite. Changement de scénario. Et à droite aussi, on se pose la question de la vente du siège rue de Vaugirard. Et on prévient déjà que les départs des salariés ne seront plus remplacés. Idem chez les écolos. Eux ont déjà quitté leur siège il y a 2 ans. Trop grand, trop cher. Mais certains réfléchissent même à déménager de nouveau pour un F3 dans Paris. Sur les 14 personnes qui travaillaient au parti, 10 ont été licenciées cet été. Et puis il y a le Front National, alors qui s'en sort un peu mieux, mais qui espérait une trentaine de députés. Ils ne sont que 7, ce qui veut dire moins d'argent qu'espéré. Et obligation de rester pour l'instant dans leur siège de Nanterre en banlieue parisienne, alors que Marine Le Pen avait pour projet de revenir dans le cœur de Paris.
Dominique, cette situation difficile pour les partis, ça va durer comme ça pendant 5 ans ?
Logiquement, oui. Il faut savoir que cet argent que verse l'État, ça représente jusqu'à 60% du budget total de fonctionnement. C'est donc essentiel. Hein. Le reste, ce sont les dons, les adhésions des militants. Les partis vont donc clairement devoir se serrer la ceinture, au moins jusqu'en 2022, à moins évidemment qu'une dissolution de l'Assemblée ne vienne rebattre les cartes.
Merci Dominique Tenza du service politique de RTL. Olivier Mazerolle, l'état financier de certains partis, que ce soit les partis socialistes, les Républicains, le FN, ça peut jouer sur leur place, leur rôle dans la vie politique ?
Bien sûr que ça peut jouer, parce que l'argent a malgré tout une importance forte et grande. Maintenant, ça peut jouer aussi dans un autre sens. D'abord, ce qui est arrivé aux partis politiques, c'est de leur faute. Après tout, ils sont comme des entreprises qui ne proposent pas aux clients de bons produits. Eh bien, elles tombent en rade. Eh bien, les partis politiques, les trois dont on vient de parler, ont fait cela et donc ils sont sanctionnés. Et ils se trouvent donc dans la situation soit d'entreprises qui doivent redémarrer, soit de nouvelles entreprises qui font avec les moyens du bord. Et parfois, ça donne une énergie nouvelle.
Les start-up.
Mais pas seulement les start-up. Vous savez, quand vous démarrez, vous êtes obligé de faire avec les moyens du bord. Donc ça vous donne de l'énergie, ça vous oblige à vous impliquer. Vous ne reposez plus sur la secrétaire qui est dans le bureau d'à côté ou sur le copain qui viendra peut-être tout à l'heure pour reprendre le flambeau. Vous êtes obligé de vous impliquer, de faire preuve d'imagination, bref, d'être peut-être plus proche des électeurs. Donc, s'ils prennent ça par ce bout-là, ça peut-être les remotiver et leur donner une nouvelle énergie et finalement une nouvelle allure.
Les Français leur ont peut-être rendu service, allez savoir.
On ne sait pas.
Dans une semaine, Olivier, dimanche 24, ce seront les élections sénatoriales. Alors, on rappelle les principales données. Hein, 171 sièges à renouveler sur 348, c'est presque la moitié. Vous et moi, Olivier, on ne vote pas. Seuls votent ceux qu'on appelle les grands électeurs. Ils sont plus grands que nous. Maires, conseillers municipaux, départementaux, régionaux. Je vous laisse cette remarque. Députés ou sénateurs, ça c'est le mode d'emploi. Au plan politique maintenant. Après la présidentielle et les législatives, La République En Marche pouvait espérer, avec ses sénatoriales, faire la passe de Troyes. Seulement voilà, bon nombre d'élus locaux sont bien décidés à faire payer cher au président Macron plusieurs décisions annoncées, notamment cet été. Un département illustre parfaitement ce désamour entre élus locaux et le président Macron, c'est la Loire-Atlantique. Bonsoir Patrice Gabart.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de RTL là-bas. Département intéressant, hein, je le disais, car avant l'été, un véritable raz-de-marée En Marche s'était produit. Dimanche prochain, ça risque d'être plutôt marée basse. Hein.
Oui, La République En Marche a réalisé le carton plein lors des législatives en Loire-Atlantique. Un incroyable 10 sur 10 qui laissait entrevoir une belle percée lors des sénatoriales. Seulement voilà, depuis la fin du printemps, cette vague qui avait tout emporté ou presque sur son passage a perdu de sa puissance jusque dans ses propres rangs. Des élus locaux qui avaient soutenu la candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle et qui s'inquiète aujourd'hui des dernières décisions de l'exécutif, à commencer bien sûr par la réduction des contrats aidés, comme le socialiste Frédéric Hervochon, vice-président du département.
J'avais soutenu effectivement le président Macron, mais très clairement on a besoin au niveau des élus locaux d'une orientation qui ne soit pas simplement des coupes sombres budgétaires, alors que derrière, on a de l'humain, on a des associations qui font un travail formidable. Et là, manifestement, sur ce dossier, mais sur bien d'autres, on a des inquiétudes. Et effectivement, La République En Marche n'aura pas mon soutien pour cette élection.
Et les critiques portent autant sur le fond que sur la forme. Un problème de méthode pour Georges Leclève, maire sans étiquette de Chaumont-Ray, qui avait parrainé l'hiver dernier la candidature d'Emmanuel Macron et candidat aujourd'hui au sénatorial sur une autre liste, divers gauche.
En Marche s'est créé à partir de la base. Donc aujourd'hui, j'ai un peu perdu ce sentiment de venir à la base, et c'est pour ça que je suis désormais moins proche de cette dynamique. Moi, ce que j'avais apprécié, c'est que En Marche se situait au-dessus des partis. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de partis politiques. Finalement, dès que l'on met une organisation en place, tout de suite, cette organisation, elle est pilotée par Paris. Et nous, les élus locaux de base, on n'a plus d'autre mot à dire.
Une absence de dialogue qui risque de peser lourd ici, en Loire-Atlantique.
Patrice, tous les élus de La République En Marche ne veulent pas forcément sanctionner le président, mais certains, à l'image d'un élu mis sur la touche par la commission d'investiture, certains dénoncent la méthode.
Oui, Bernard Morillot, le maire de Sainte-Pazanne, annoncé officiellement tête de liste le 26 juillet par cette même commission, est débarqué le 4 septembre au profit d'une femme. Pas rancunier, droit dans ses bottes, Bernard Morillot votera tout de même en faveur de La République En Marche le 24 septembre prochain, mais il dénonce son amateurisme et lance un avertissement.
Ce qu'on attend d'un président de la République avec un gouvernement, c'est qu'il engage des réformes. Mais ces réformes ne doivent pas être engagées de façon brutale. Moi, je me suis engagé dans ce mouvement parce que c'était un mouvement nouveau qui inversait la façon de fonctionner, qui remettait en cause les vieux partis et leur chapelle, quelque part, et tout ça. Et là, les choses s'imposent sans qu'il y ait de discussion possible. Je pense que ce mouvement aura besoin de bien se caler les choses pour l'avenir, pour éviter ce type de couac dans le futur.
Un couac qui pourrait bien se traduire par un zéro pointé, et 3 mois après le 10 sur 10, cela serait du plus mauvais effet. Trimestre irrégulier doit se ressaisir.
Reportage Patrice Gabart en Loire-Atlantique. Olivier, pour reprendre la métaphore de Patrice à l'instant, vous pensez que l'élève Macron va comprendre le message ?
Ah, ça, je ne sais pas s'il va le comprendre, mais en tout cas, il va le recevoir. Ça, c'est incontestable, parce que de toute façon, les élections sénatoriales, elles dépendent mécaniquement de ce qui s'est passé dans les élections précédentes. Or, aux élections précédentes, la droite a raflé la mise, dans la plupart des cas, en tout cas, sur le plan local. Les grands électeurs, et parfois gros, dont on parlait tout à l'heure, viennent de ces élections locales, pour la plupart. Ce qu'on vient d'entendre en Loire-Atlantique, ça signifie tout simplement que ça va encore renforcer la droite, parce que si les socialistes ne votent plus pour La République En Marche, ce ne sont pas leurs candidats non plus qui vont réussir à être élus. Donc pour Emmanuel Macron, oui, c'est un déboire par rapport à ce qu'il avait envisagé après son triomphe, ou son élection plus exactement, à la présidentielle. Maintenant, il ne désespère pas au coup par coup trouver des amis, entre guillemets, qui votent avec La République En Marche sur un certain nombre de réformes, d'où d'ailleurs sa prudence pour ne pas trop en rajouter avec des décisions qui pourraient trop déplaire à la droite.
Alors Olivier, il est 18h56, on va comme tous les dimanches soirs parler de l'agenda de la semaine politique à venir. Et là, alors là, cette semaine qui s'ouvre, elle est particulièrement compliquée pour le président Macron. Ça commence dès demain lundi avec la première journée d'action des chauffeurs routiers CFDT, CFTC. Il y en aura une autre le lundi suivant, CGT, CFO. Ça commence fort là demain.
Oui, c'est une semaine avec un menu très chargé, plus exactement 8 jours, puisqu'en effet ça se prolonge jusqu'au lundi de la semaine prochaine. Donc il y a les routiers, effectivement, à partir de demain, CFDT et CFTC, sans doute avec des barrages filtrants. Ensuite, il y a la CGT, manifestation jeudi. La publication des ordonnances vendredi avec les détails d'application qui peuvent motiver les manifestants qui sont invités par Jean-Luc Mélenchon à venir samedi. Et donc dimanche, il y a les élections au Sénat. Et lundi prochain, lundi de la semaine suivante, donc il y a cette fois les routiers CGT et FO. Et eux, ils affichent la couleur. Ils disent, on va bloquer les raffineries. Donc leur objectif, c'est de paralyser le pays. On sait que les routiers ont cette possibilité de le faire. Et c'est donc effectivement essentiellement sur les routiers, peut-être appuyés par des manifestations qui pourraient être plus importantes que celles du 12, que va se focaliser l'attention. Parce que s'il devait y avoir blocage du pays, paralysie, eh bien, ça aura forcément un impact sur le moral de l'opinion publique qui trouve que Macron peut-être en fait un peu trop à la fois. Maintenant, si en revanche le gouvernement passe cet obstacle, alors la voie est ouverte pour réaliser pas mal de réformes.
Et puis dans les échéances de la semaine, vous avez cité la manif de la CGT, il y a celle de la France Insoumise,
oui,
samedi prochain.
Oui, je l'ai dit.
On verra, je ne l'ai peut-être pas noté, mais on verra.
Vous n'êtes pas très attentif.
On verra si la France...
C'est le lendemain des ordonnances, je dis, qui peut motiver un certain nombre de manifestants invités par Jean-Luc Mélenchon à venir place de la Bastille.
On verra à ce moment-là si la France Insoumise, comme on le dit, est la première force d'opposition aujourd'hui ou pas.
Oui, mais avec le tacle... Bon, qui n'aura pas d'impact immédiat, mais qui va cheminer quand même dans les esprits de Pierre Laurent adressé à Jean-Luc Mélenchon.
Merci Olivier Mazerolles.
Pour que la gauche reprenne le flambeau, il faut qu'elle donne l'espérance d'arriver au pouvoir. Et avec des tacles comme ceux de Pierre Laurent aujourd'hui, ça indique très clairement avec Jean-Luc Mélenchon, c'est impossible d'arriver au pouvoir.
Merci Olivier Mazerolles, à dimanche prochain. Il est 18h59 sur RTL. Petite pause dans un instant après les titres de 19h. Les dessous de l'écran, on va voir pour inviter Alix Poisson et François-Xavier Demaison qui vont nous parler d'une série absolument formidable qui arrive mardi sur M6 qui s'appelle Cadra. Et puis juste après, on appellera François Pélissier, le patron des sports de TF1, puisque la Formule 1 va revenir la saison prochaine sur TF1. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.